Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver après l'été, après un bon séjour au Québec et un camp formation biblique magnifique dans les Cévennes. Merci pour vos prières. C'est tellement motivant d'avoir une troupe de jeunes assoiffés, de connaître pour mieux servir, pour mieux honorer, glorifier le Seigneur. Très reconnaissant. Ce matin, donc, après la semaine Lego, je suis venu faire un tour hier, bravo, il n'y en a pas beaucoup, mais à ceux qui ont contribué, avant-hier, je me trompe, alors, hier c'était trop tard, je suis venu vendredi. Nous avons pensé réfléchir ensemble au thème de la construction dans nos vies et dans l'Église. Jésus est celui qui construit l'Église, il est venu pour donner sa vie. Pour elle, il a envoyé son esprit pour que nous puissions vivre, grandir, progresser. Il a promis d'être tous les jours avec nous. Il ne veut pas démarrer ? Non. Je sais. Voilà. Tout est accompli. C'est que pour que la diapo. Mais Jésus a vraiment accompli. Jésus est celui qui a dit « Je bâtirai mon Église ». La première mention du mot « Église » dans le Nouveau Testament est une des deux seules mentions dans les évangiles. Par contre, après, on aura une centaine de fois, un peu moins, l'Église citée dans les épîtres, après la naissance de l'Église à la Pentecôte, dans Acte 2. Qu'est-ce que Jésus a dit ce jour-là ? Je bâtirai mon Église. Peut-être deux choses simples qu'on peut garder en tête et méditer. C'est que l'Église est une construction. On est en chemin. Comme un corps qui grandit, une autre image, comme un troupeau qui est nourri et qui évolue, une autre image, comme un édifice qui est édifié, encore une autre image. L'Église est en construction. La deuxième chose très claire que Jésus dit ce jour-là, c'est que c'est lui le maître d'œuvre. C'est lui le constructeur, le grand architecte. Si on change d'image, le berger du troupeau, la tête du corps, dans toutes les images, il est l'origine, il est le socle, il est la cause première de la vie et de la croissance. Et donc, à la toute fin de sa vie terrestre, déjà sur la croix, Jésus a dit cette parole qui a été beaucoup méditée déjà par les chants et commentaires au début de ce culte. Tout est accompli. Et je vous propose de relire la partie du chapitre dans laquelle nous trouvons cette déclaration immense, dans Jean 19, versets 28 à 42. Après cela, Jésus, qui savait que déjà tout était achevé, dit afin que l'Écriture soit accomplie, « J'ai soif ». Il y avait là un vase plein de vinaigre, on fixa à une tige d'hysope, une éponge imbibée de vinaigre, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit « Tout est accompli ». Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. C'était le jour de la préparation, et pour ne pas laisser les corps en croix pendant le sabbat, or ce sabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate de les faire enlever après leur avoir brisé les jambes. Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes du premier, puis de l'autre, qui avait été crucifié avec lui, avec Jésus. Arrivés à Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit de l'eau et du sang. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai. Et lui, il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez, vous aussi. Cela est arrivé pour que l'Écriture soit accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Et ailleurs, l'Écriture dit encore, ils regarderont à celui qu'ils ont percé. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission d'enlever le corps de Jésus, et Pilate le permit. Il vint donc et enleva le corps. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi et apporta un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus, l'enveloppèrent de bandelettes avec les aromates, comme c'était la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin à l'endroit où il avait été crucifié. Dans le jardin, un tombeau neuf où personne encore n'avait été déposé. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le tombeau était proche. Que Dieu bénisse l'écoute de sa parole et sa méditation maintenant. Tout d'abord, un premier point pour qu'on se souvienne ensemble de l'immensité des souffrances dans lesquelles tout cela se passe. Tant de souffrances. Je ne veux pas passer sur... Tout d'abord, Jésus était sur une croix, instrument de supplice bien présent dans l'histoire de l'Empire romain. Avant la croix, il a été flagellé, couvert d'une couronne d'épines sur la tête. Il a été énormément battu. Et puis, il est là après un parcours inouï de cumul d'injustices. Il n'est pas du tout un grand brigand, un fauteur de troubles, un homme dangereux, une menace à l'ordre public, ou quoi que ce soit de cet ordre. Non seulement les souffrances physiques sont immenses, mais les injustices sont innombrables. Et puis, tout cela est déjà immense, mais nous voulons nous souvenir ce que nous rappelons souvent, au-delà de la partie visible et de tout ce qui est corporel, de façon particulièrement non mesurable, Jésus reçoit la colère de Dieu à cause de mon péché, de nos péchés, des péchés de l'humanité entière. Il est maudit à ma place. Souffrance mystérieuse, non mesurable. Donc tout cela se passe dans un contexte de souffrance immense, de cumul de domaines dans lesquels le mal, le malheur, les douleurs s'ajoutent les unes aux autres. Dans notre texte, il est question d'un moment où Jésus dit « j'ai soif », ce n'est qu'un aspect des manques ressentis, et puis de ce breuvage de vinaigre qui lui est donné sur une tige d'hysope. Le vinaigre, nous disent ceux qui ont étudié la culture, était utilisé assez régulièrement pour étancher la soif parce que l'eau vinaigrée avait été repérée comme étanchant un peu plus la soif que l'eau neutre. Je pense qu'il ne faut pas en mettre trop. Mais voilà, c'était une des raisons assez reconnues qui fait qu'il y avait là de l'eau vinaigrée. Mais surtout, nous voyons un sens symbolique à ce qui a été vécu à ce moment-là par Jésus. Ce vinaigre amer renvoyant aux herbes amères trempées dans le vinaigre pendant le repas de la Pâque juive pour rappeler l'amertume du péché. Et l'auteur de l'Évangile ajoute, pour nous aider probablement, un lien qui résonne très vite dans nos têtes. Ils l'ont mis sur une branche d'hysope. Et les commentateurs disent que ce n'est pas banal, c'est un peu inattendu que ce soit sur une branche d'hysope qui n'était pas la plus pratique, que cette éponge de vinaigre lui ait été passée. Et nous pouvons, sans forcer le texte du tout, voir la souveraineté de Dieu qui veut nous donner un repère théologique, symbolique, avec les branches d'hysope qui ont permis le salut des familles qui ont mis du sang sur les linteaux à la Pâque, la première Pâque en Égypte. Cette branche d'hysope qui est rappelée dans Exode 12 et dans le psaume 51, David qui se repent de son péché, évoque ce symbole très fort de l'hysope qui permet à Dieu de nous pardonner parce que le sang a coulé. Donc énormément de souffrances, et Jésus lui-même va connaître la soif et va connaître le cumul de souffrances que je viens d'un petit peu évoquer. Deuxième remarque devant ce texte, le cumul de remarques que l'Évangile nous fait, nous rappelant que Dieu fait ce qu'il a dit. Tout est accompli. La diapo suivante nous montre que simplement en quelques lignes, on a « afin que l'Écriture soit accomplie », on a le fameux « tout est accompli » du verset 30, et un peu plus bas, on a encore « pour que l'Écriture soit accomplie », en nous rappelant que ses os ne devaient pas être brisés et que son côté devait être percé. « Afin que l'Écriture soit accomplie », verset 28, faisant écho au psaume 22, « ma force se dessèche comme l'argile, ma langue s'attache à mon palais. » La soif était extrêmement profonde et douloureuse. Et puis Zacharie 12, évoqué par le troisième élément, « Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé. » C'est Dieu qui parle. C'est le Messie qui parle, le serviteur. Ils tourneront les yeux vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Extrêmement inattendu dans Zacharie, et nous comprenons, nous dit Jean, l'accomplissement de cette promesse parmi beaucoup d'autres ce jour-là. Oui, tout ce que le Seigneur a fait permet à des dizaines de prophéties de s'accomplir. Puis nous en arrivons au « tout est accompli ». Encore. Qui est une des sept paroles de la croix, la sixième, collée à la septième, semble-t-il. Je les remets devant nos yeux. Première parole, « Père, pardonne-leur. » Ils ne savent pas ce qu'ils font. Puis ils se partagèrent les vêtements et les tirèrent au sort. On trouve cela dans Luc 23. Et puis la deuxième parole adressée à un homme repentant. « Oui, je te le dis, aujourd'hui avec moi, tu seras dans le paradis. » Toujours dans l'évangile de Luc. Troisième parole, Jésus voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Au début du chapitre que nous avons lu ce matin, Jean 19. Au milieu des sept, la quatrième parole, au centre des sept paroles, peut-être la plus énigmatique, la plus douloureuse, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» La seule fois où Dieu, où Jésus-Dieu appelle son Père, mon Dieu, et non pas mon Père. Et puis, cinquième parole qu'on a lue ce matin, « J'ai soif » au début de la péricope lue ce matin. Sixième parole, « Tout est accompli » et dans les secondes qui suivent apparemment, il est décédé en disant cette septième parole, « Père, entre tes mains, « je remets mon esprit. » Après avoir dit cela, il expira. Donc à la toute fin de sa vie terrestre, Jésus a prononcé ce mot qui a été mis à l'honneur, qui a été souligné dès le tout début du culte, en utilisant la langue du Nouveau Testament, le grec « tetelestai ». Vous pouvez le mémoriser, ce n'est pas dur. Mais si vous vous souvenez de « tout est accompli », ça va très bien aussi. Tout est accompli. Et j'étais ému, fortifié de reméditer cette expression grâce à notre mise en route de ce thème avec l'équipe Louange au début de la semaine. Qu'est-ce que veut dire ce mot ? Ça a été rappelé au début du culte. Ah, c'est l'idée de finir une tâche. On termine des travaux. Il y en a qui en ont terminé cet été. On termine une action. Allez, j'ose. Un déménagement. On termine. On est arrivé. On termine l'année scolaire. On va bientôt en recommencer une, mais il n'y a pas longtemps, on en a terminé une. Mais plus globalement, il y a l'idée de perfection. il y a l'idée d'un achèvement, pas simplement parce qu'on a, on a terminé les dernières choses à faire, on a fini les foins, on a fini ce qu'on avait à faire. Non, il y a l'idée de quelque chose qui est bien en place. Et tout peut continuer parce que la mission incontournable a été accomplie. Pour le dire plus simplement en deux lignes, tu peux mettre la diapo suivante. Donc il y a cette idée de finir un travail, c'est l'idée la plus simple, qui est juste. Mais ce matin, j'ai à cœur qu'on se concentre sur le deuxième aspect qui est extrêmement présent au moment où Jésus proclame cela. Au-delà de simplement terminer quelque chose qui était commencé, il y a permettre la pleine réalisation de ce qui était en route. Et qu'est-ce qui était en route depuis des milliers d'années, depuis la promesse de Dieu à Adam et Ève qui ont subi un terrible épisode de séparation à cause du péché? Dieu avait promis d'offrir un chemin de salut. Ça y est, nous y sommes. Les mots nous manquent pour traduire ce tétélestai. Il nous a sortis d'affaires. C'est bon. Cherchez dans vos cultures linguistiques ce que vous diriez. Le salut promis est offert clairement. Le chemin de la libération est vraiment ouvert. On n'est plus devant des étapes importantes vécues les unes après les autres. On est à la dernière, c'est tout bon. La mission est accomplie. Et pour cela, il fallait des éléments incontournables. Que Jésus soit homme, quelqu'un d'autre ne pouvait pas payer à notre place. Et l'Épître aux Hébreux, entre autres, dit clairement que les vaches et les veaux et les taureaux et les boucs, rien ne pouvait être accepté par Dieu comme personne maudite à notre place. Donc il fallait que Jésus soit un homme. Et puis il fallait qu'il soit parfait, parfait, parfait. Parce qu'un défaillant ne peut pas payer à la place d'un autre défaillant. Et puis, j'ai plusieurs fois médité ce mot qui me donne le vertige depuis quelques années. Il fallait que Dieu accepte la substitution. Et rien ne l'obligeait. Mais il a voulu accepter que quelqu'un ait pu être maudit à ma place. Mais Dieu aurait pu vouloir qu'Étienne soit maudit parce qu'Étienne mérite d'être maudit. Même si quelqu'un d'autre a été maudit, la substitution fait partie de façon magnifique de l'ensemble du cadeau du salut. Dieu a voulu accepter qu'un autre soit maudit à ma place en décidant d'enlever la malédiction que je méritais et qu'il aurait pu laisser sur moi. Je répète, rien n'oblige quelqu'un à accepter que quelqu'un d'autre paye pour l'autre. La substitution est un grand cadeau de l'histoire du salut. Comment illustrer ça? J'ai cherché deux, trois images. Vous en auriez peut-être des meilleures. Par des chants, des danses. Je rêve que le tout est accompli nous poursuive. Cet après-midi, cette semaine, toute la vie, et qu'on ressemble un peu plus à ça. Alors, je ne suis pas gêné de le dire parce que je ne suis pas un grand danseur, hein. Mais j'ose mettre une image de danseur pour évoquer ce que je nous souhaite de vivre dans notre style, dans notre façon d'être. Je suis un tout petit peu plus musicien, si tu mets la deuxième photo. Je serais à peine plus à ma place. Ouais. Feu d'artifice, mais qu'est-ce qui peut illustrer dans nos têtes? Qu'est-ce qui peut représenter notre ressenti qui devrait, et je veux culpabiliser personne, je veux nous tendre la perche d'un progrès spirituel qui devrait plus nous toucher? La libération, c'était plus facile de trouver des images. On ne devrait pas se lasser, ouais, je ne veux pas passer, tant pis, hein, de méditer le fait qu'il est notre libérateur. Sans lui, je suis incapable de me sortir d'affaires. Sans lui, je ne peux absolument pas m'en sortir. Sans lui, je ne peux absolument pas aller vers le haut. Il est celui qui a pu dire « tout est accompli » parce que tout est là pour libérer complètement ceux qui étaient enchaînés complètement. Tout est accompli. Et cela doit nous conduire à l'adoration. Une autre façon d'illustrer cela, j'ai trouvé une belle photo de quelqu'un qui respire la paix, la joie, la reconnaissance, l'adoration. Ce « tout est accompli » doit nourrir tout cela en nous. Parce que le « tout est accompli » du Seigneur nous permet aussi à nous d'accomplir ce que nous devons accomplir. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Jésus a dit « tout est accompli » et il dit des disciples que nous sommes que le disciple accompli sera comme son maître. La perfection de son œuvre, la délivrance totale qu'il nous a accordée, la justification sans aucune faille qu'il nous donne, fait de nous, font de nous, des disciples qui peuvent eux-mêmes accomplir ce que le Seigneur veut les aider à accomplir. Et parce que lui a accompli un chemin parfait, nous pouvons vivre nos chemins en allant de progrès en progrès. Conclusion, trois mots. Reconnaissance. Je l'ai dit tout à l'heure, je nous souhaite d'être poursuivis par cela et de repartir tout à l'heure en méditant cette parole glorieuse de Jésus-Christ que nous avons déjà plusieurs fois chantée ce matin. Tout est accompli. Rien n'est en attente. Beaucoup de choses étaient en attente avant Jésus. Et je vais relire un texte qui parle de la substitution et qui peut encore nous émerveiller parce qu'il a fait ce qui était nécessaire pour que plus rien ne soit en attente. Romains 3. C'est lui, Jésus, que Dieu a destiné comme moyen pour laver nos péchés, ceux qui auraient la foi en son sang, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Les milliers et milliers de sacrifices de l'Ancien Testament ont pardonné combien de péchés ? Zéro. C'est clair. Dieu avait laissé impunis les péchés commis auparavant, ils étaient suspendus en attendant un unique, historique, magnifique, tout est accompli. Et là, tchou. Depuis ce jour, et à cause de cette heure, on pourrait presque dire de cette minute, Dieu peut pardonner les péchés à tout pécheur qui se repent, parce que tout est accompli. Quel salut, quel cadeau complet. Louange et adoration. Quel amour immense de celui qui a donné sa vie pour pouvoir prononcer ces mots. Quel amour immense de celui qui va jusqu'au bout. Jean 13 nous dit, ayant aimé les siens jusqu'au bout, il leur lava les pieds. En signe de sa mort, de sa résurrection et de la justification qu'il allait leur donner. Il les a aimés jusqu'au bout. Est-ce qu'on a connu la tristesse de personnes qui nous promettent quelque chose qui n'aboutit pas ? J'ai fait souffrir des personnes en promettant trop. Le Seigneur lui est allé jusqu'au bout. Ça a été rappelé ici tout à l'heure, il a eu des moments d'immense douleur, d'inquiétude, d'angoisse, qui lui ont fait prononcer ces paroles, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. » L'immensité de la douleur l'a fait imaginer passer à côté. Mais il est allé jusqu'au bout. Adorons celui qui nous a aimés jusqu'au bout. Et puis, Troisième conséquence que je nous propose, engagement et service. Il a tout accompli pour que nous puissions être des disciples accomplis. Et pour que ce matin, nous puissions renouveler notre désir de le servir, de l'honorer, de mettre de côté ce que nous devons mettre de côté, de consolider ce que nous devons consolider et de l'honorer pendant la semaine qui commence. Nous avons chanté il y a quelques minutes, « Libéré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. » Prions les uns pour les autres pour que nous puissions être dans cet état d'esprit d'adorateurs qui sont tellement émerveillés devant celui qui a tout accompli, qu'ils sont d'autant plus motivés pour se lever ou pour continuer à marcher dans la direction qui honore celui qui a préparé des œuvres pour que nous les accomplissions. Le Seigneur a pu dire ce qui était nécessaire dans toute l'histoire du salut. Tout est accompli. Chers amis, nous sommes sortis d'affaire. Et sans cette heure-là, nous ne serions pas sortis d'affaire. Que ceux qui sont déjà au bénéfice du pardon de Jésus-Christ puissent le louer, l'adorer, que ceux dans cette salle qui seraient peut-être en questionnement puissent entendre de l'Évangile ce matin la main tendue de celui qui a tout fait pour offrir un vrai salut, pour offrir une vraie libération et pour nous permettre de vivre la vie en abondance. Amen. Je vous invite à prier. Oui, Seigneur, merci pour cette proclamation que nous avons pu méditer ce matin depuis les premiers chants et puis en méditant encore ta parole maintenant. Continue par ta grâce à ouvrir nos yeux, nos cœurs, par ton esprit, pour que nous comprenions la portée immense de cette proclamation de ton œuvre parfaite, achevée, accomplie, qui nous libère complètement du péché et qui nous accorde une justification sans aucune tâche, sans aucune faille, sans rien qui serait défaillant. Oui, Seigneur, renouvelle notre reconnaissance, notre joie, notre adoration. Et puis, fortifie aussi en chacun de nous le désir de t'honorer, toi qui nous as tant aimés, qui as tout donné, que nous puissions être renouvelés dans notre zèle pour mettre en pratique tout ce que tu nous dis dans ta parole et te servir, te faire connaître, t'honorer partout où tu nous conduiras cette semaine et dans les semaines qui suivront. Amen.